dans la prière. Ô Père, qu'il te plaise en ce moment de nous attirer d'une manière irrésistible vers ton Fils unique que tu nous as donné et qui disait « Nul ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Qu'il y ait par la puissance de ton esprit en ce moment cet attrait pour ton Fils. Et que se réalise aussi en cette journée du 19 février cette parole que ton Fils disait « Nul ne vient au Père que par moi. » Qu'il y ait cette rencontre et que cette journée marque nos vies dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je voudrais tout d'abord que vous écoutiez avec moi et que j'écoute avec vous quelques paroles de l'Évangile qui nous permettront de rejoindre la pensée du jour que nous vous avons donnée ce matin. C'est dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, au verset 12e, Jésus parle. Et que disait-il ? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens. » Et où je vais. Vous jugez selon la chair, c'est-à-dire avec les yeux que nous avons. Moi, je ne juge personne. Il est au milieu de nous. Et il vous dit, moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi, la loi que connaissaient les Juifs, que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dire, se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit « Vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car, écoutez bien, si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, » Qu'est-ce que ça veut dire ? « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, » Alors, vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Donc, il y a une connaissance du Christ qu'on ne peut avoir qu'à quelle place ?
À la croix.
À la croix. Ce que le Seigneur m'a montré, c'est que cet après-midi, nous devions aller jusqu'à cette croix pour que jeunes ou plus âgés, nous ayons une connaissance de ce qu'est le Christ et de ce qu'est Dieu. Car il n'y a pas de réelle et complète connaissance de Dieu et de nous-mêmes en dehors de cette révélation de ce qu'est Jésus. C'est en Jésus que j'apprends qui est Dieu, et c'est en Jésus que j'apprends à me connaître moi-même. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà la pensée du matin que nous retrouvons, que je vous ai laissée, que je me suis moi-même appropriée. Et ce que je viens de faire maintenant, c'est simplement d'appliquer la règle ou la première remarque que je vous faisais hier soir. Pour bien comprendre le sens profond d'un texte, il faut lire son contexte, il faut voir dans quel moment il a été dit, quelle était l'atmosphère qui régnait quand cette parole a été prononcée. Savoir ce qui précède, savoir ce qui suit. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Est-ce que Jésus disait la vérité ? On l'a accusé de se rendre témoignage à lui-même, dont je suis la lumière du monde. Enfin, pour qui se prend-il ? Alors je vous ai demandé que, en pleine nature, aujourd'hui, dans cette merveilleuse lumière du soleil, vous vous posiez des questions au sujet de Jésus, qui prétendait qu'il faisait toujours ce qui était agréable à Dieu. Si vous aviez été au bord du Jourdain, au moment de son baptême, qu'est-ce qui s'était passé d'extraordinaire Alors que lui, comme tous les autres hommes qui venaient auprès de Jean-Baptiste, vous connaissez bien qui est Jean-Baptiste, surtout au Québec, hein, eh bien, ce Jésus de Nazareth vient au Jourdain et il demande d'être baptisé comme s'il était un pécheur, comme tous les autres. Bien sûr, Jean-Baptiste lui a résisté quelques instants, mais Jésus lui a dit « Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. » Jésus a voulu passer par ce baptême pour nous montrer comment le ciel peut aussi s'ouvrir sur nous. Quand il est sorti de l'eau, alors qu'il était en prière, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Et tous ceux qui étaient là ont entendu cette voix du Père, cette voix que depuis longtemps Israël ne voulait pas entendre, parce qu'ils en avaient eu peur au Sinaï. Au Sinaï, leurs ancêtres avaient dit à Moïse, qu'on n'entende plus cette voix, toi écoute ce qu'il dit et transmets-nous les paroles. Mais nous, nous avons trop peur quand nous entendons sa voix. Et c'est pourquoi vous n'entendez plus une voix qui tonne des cieux. Mais un jour, au baptême de son fils, le ciel s'est ouvert. Et qu'est-ce qu'on a entendu? La voix du Père qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve tout mon plaisir, ou en qui j'ai mis toute mon affection, ce fils qui me satisfait pleinement, qui me satisfait toujours dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il pense. » On avait entendu cette voix. Puis, dans une autre occasion, sur la montagne de la Transfiguration, avant que Jésus n'aille à Jérusalem pour y accomplir toute la volonté de son Père, il est avec trois de ses disciples, et soudainement, dans ce matin, le Seigneur est comme irradié, il est rendu resplendissant, et ses trois disciples le voient parlant avec Moïse et avec Élie, des saints de l'Ancien Testament, qui apparaissaient aux trois disciples, eux aussi glorifiés. Et c'est à ce moment-là que Pierre, ne sachant pas trop que dire, l'apôtre Pierre s'écrie, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » On aime bien avoir une vision. « Il est bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Il mettait Jésus sur le même pied que Moïse et Élie. Et puis au fond, avec les trois tentes, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Rester unis? Se séparer. Ils allaient être séparés par leurs tentes. Et qu'est-ce que Dieu allait faire, lui? Il allait les recouvrir de sa nuée glorieuse. Tout à coup, une nuée les a tous couverts. Et puis, du sein de la nuée, on a entendu la voix du Père qui disait, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Ça, c'est une parole que vous retrouvez, tout ce que je vous dis, vous le retrouvez dans l'Écriture. « Écoutez-le, c'est mon fils élu, écoutez-le. » Puis, peu de temps après, étant redescendu à Jérusalem avec ses disciples, Jésus, sentant que son heure approche, l'heure où il doit aller jusqu'au bout dans l'accomplissement de la volonté de son Père, il s'écrie, « Mon âme est troublée. Père, glorifie ton Fils. » Et instantanément, en pleine ville de Jérusalem, on a entendu comme un coup de tonnerre, puisqu'il y en a qui ont cru que c'était un coup de tonnerre, et la voix du Père a dit, et je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Donc, le Père a rendu témoignage à cet homme Jésus qui a donné son nom à notre ère. Nous sommes au XXe siècle après Jésus-Christ. Donc, Jésus ne s'était pas glorifié lui-même. On peut croire que son témoignage était vrai quand il disait « Je fais toujours les choses et qui plaisent à mon Père. » Alors ce matin, je vous ai demandé de penser un peu à lui. Et je ne sais pas si vous l'avez fait aujourd'hui. Les jeunes ou les plus âgés, parce que c'était pour tous. Je sais très bien que quand on parle de Jésus dans certains auditoires, on éveille tout de suite dans l'esprit cette pensée, le petit Jésus. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont pensé au petit Jésus? C'est encore assez proche de Noël. Alors, oui, vous avez peut-être pensé au petit Jésus. Et je vous ai dit qu'il y avait une espèce de télévision dans notre crâne, hein, dans notre tête, et puis aussi dans notre cœur. Alors, vous avez vu peut-être les scènes évangéliques du petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Mais j'espère que vous êtes allé plus loin. Parce que Jésus n'est pas resté le petit Jésus qu'ont vu les bergers de Bethléem. Il a grandi. Il a appris un métier. Il a travaillé à la sueur de son front. Il a servi les autres, des clients comme vous aussi. Vous devez travailler. Il a été dans le monde. Il a eu une occupation dans ce monde. Il a eu des charges dans ce monde jusqu'à l'âge de 30 ans. Mais vous avez pensé peut-être à lui, à tout cela. Il a été un homme vraiment à Nazareth, la ville où il a été élevé. Et puis ensuite, vous avez pensé justement à son baptême que je viens d'évoquer. Ce baptême où justement la voix du Père l'a comme introduit publiquement dans son ministère. Et je pense que dans vos pensées, si vous avez pensé à Jésus ce matin ou cet après-midi, quelles que soient vos occupations, votre pensée pouvait se rapporter à Jésus. Alors vous l'avez vu dans votre ministère, je ne pense pas que je parle à des gens ignorant la vie de Jésus. Vous connaissez votre histoire sainte et vous connaissez les grands faits de ce Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Vous savez ce que ses mains accomplissaient, les miracles qu'il faisait. Et vous savez aussi les bonnes nouvelles qu'il apportait à des gens pauvres dont il changeait la situation, même matériel, qu'il délivrait d'une position qui n'était pas à la gloire de Dieu. Il ne disait pas simplement à quelqu'un « tu n'es pas dans un bon travail là », mais il le sortait de cette situation. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et sa puissance était telle qu'il pouvait dire devant un sépulcre où un mort se trouvait depuis 4 jours, « Père, je sais que tu m'exauces
toujours. »
Toujours. Voilà encore le mot qu'il pouvait dire. « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Est-ce que c'était vrai? Oui, c'était vrai. Lazare sort dehors. Et ce corps qui était déjà en décomposition et en quelque sorte recréé est le mort. Sort et apparaît dans ce jardin de Béthanie qui est là sur le mont des Oliviers. La puissance de Jésus. Vous avez pensé à ce Jésus. Et peu de temps après, celui qui faisait tant de miracles, celui qui apportait de nouveau la joie dans les foyers en deuil, la guérison, là où il y avait des infirmes, eh bien, qu'est-ce qu'on a voulu faire de cet homme? Qu'a-t-on fait de celui dont le monde avait tant besoin? Qu'ont fait des hommes de chair, comme vous et comme moi, qui ont des yeux, des oreilles, des mains? Et qu'a fait l'un des siens, l'un qui se disait être les siens, le que Jésus avait choisi et même auquel il avait confié, quoi? La bourse. C'était qui?
Judas.
Quand il a pensé que ça pourrait tourner mal pour son maître, il a voulu gagner de l'argent avec Jésus. Et il est allé trouver les chefs de ce peuple juif, de ce peuple religieux, mais complètement aveuglé, pour leur vendre le Seigneur, pour leur dire à quel endroit le Seigneur se trouverait une certaine nuit, afin qu'on puisse l'arrêter. Alors, je pense que si vous avez pensé à Jésus, vous êtes allé peut-être jusqu'à son arrestation, jusqu'à ce dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, où il a institué la Sainte Cène, ou l'Eucharistie, ce qui veut dire la suprême action de grâce, et non pas simplement une hostie que l'on avalerait pour continuer de vivre comme si rien ne s'était passé. Or, ce que l'on rappelle à l'Eucharistie, ce que l'on rappelle à la Sainte Cène, c'est la mort de Jésus, mais aussi sa résurrection. Et qu'est-ce que nous annonçons ? Son retour. Il revient. Alors, je pense que peut-être vous êtes arrivés aussi à penser non seulement à la mort de Jésus, mais à sa résurrection, et que vous avez une conviction au sujet de sa résurrection et aussi de son retour, parce que ça va mal dans le monde. Ça va très mal. J'ai pas besoin de demander à Monsieur l'évêque ou à d'autres hommes politiques ou chefs de syndicats. Et ça va bien, ça va mal. Et même si, comme on dit au Québec, il faut se tenir debout, on est drôlement chancelant. C'est pas très drôle ce que nous vivons au Québec, mais ce n'est pas drôle du tout ce qui se vit dans le monde entier aujourd'hui. C'est l'angoisse, c'est la crainte. Alors, je vous le demande, que pensez-vous dans ce 19 février 1983, que pensez-vous de ce Jésus dont je vous ai demandé de vous rappeler la mémoire aujourd'hui? Qui était ce Jésus? Qui est Jésus pour vous le 19 février 1983? Vous ne pouvez pas échapper à cette question. Est-ce que vous pouvez dire: c'est le Fils unique de Dieu? Oui, je crois ce que tu as dit. Parce que Jésus disait: si vous ne croyez pas ce que je suis, on lui dit: mais encore, qui es-tu? Exactement ce que je vous ai dit dès le commencement. Le Fils unique du Père, le seul qui nous révèle qui est Dieu. La nature, évidemment, vous montre quelque chose de la puissance éternelle de Dieu, de sa divinité. Vous vous dites: mais c'est pas possible que tout cela se soit fait tout seul. Il y a un créateur, il faut être vraiment imbécile pour dire que tout cela est venu tout seul, comme si je vous dis: ma montre que vous voyez ici, hein, elle s'est faite toute seule. Vous savez bien qu'il y a eu des horlogers derrière. Vous n'avez pas vu les horlogers, mais la montre prouve qu'il y a des horlogers. Vous ne les connaissez pas. Mais la nature prouve qu'il y a un créateur, bien sûr. Mais est-ce que vous le connaissez, ce créateur, personnellement, individuellement? Est-ce que vous connaissez Dieu? Oh, mes amis, connaître Dieu, on apprend à le connaître que dans la personne de Jésus. Par une révélation, c'est pas simplement un catéchisme qu'on apprend par cœur et auquel on dit: oui, je crois cela. C'est pas seulement des dogmes. C'est croire quelqu'un, c'est croire ce qu'il a dit, c'est croire sa personne, et c'est s'abandonner à lui. C'est en Jésus que j'apprends à connaître Dieu. Ce qu'est la pureté, ce qu'est la sainteté, ce qu'est l'amour, ce qu'est la bonté, ce qu'est la vérité. Parce que dans ce monde aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on sache ce qu'est la vérité? Tout est mensonge, même les médias d'information vous racontent des mensonges. Tout ce qu'on entend est plein de mensonges. Tout ce que l'on voit est déformé. Alors on ne peut plus se faire un jugement net. Vraiment, nous sommes d'en bas. Et ce qui est d'en bas est complètement corrompu. Et il est bien dit que c'est à cause de ces choses, et vous savez très bien dans votre conscience, qu'il y a des choses qui sont absolument corrompues. Maintenant, on admet tout, pourvu que ça vous plaise, pourvu que ça vous soit agréable. On y arrive à notre agréable, hein. Pourvu que ces choses nous satisfassent, eh bien, il n'y a pas de mal à ça. Le bien, maintenant, c'est ce qui nous satisfait, c'est ce qui est le plus facile. Quand on réussit, quelles que soient les malhonnêtetés qu'on ait pu commettre, si on a réussi, c'est bien. L'essentiel, c'est de ne pas vous faire attraper. Moral que nos enfants, nos petits-enfants, sont élevés, à moins qu'ils aient des parents qui fassent connaissance avec ce Dieu qui a des yeux trop purs pour voir le mal, qui n'anéantit pas tout de suite le méchant, parce que Dieu est amour, et qu'il ne veut pas que le méchant meure. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'il se convertisse. Qu'il change. Alors, il lui donne du temps. Et il vous a donné du temps. Il vous a peut-être donné du temps, mais n'abusez pas de ce temps. Et que moi, le premier qui vous ai dit que je me mettais à l'écoute du Seigneur dans cette fin de semaine, que je n'abuse pas de ce temps, afin que mes pensées, ces pensées où j'ai perdu tant de temps, ne soient plus mes pensées, mais que ce soit ces pensées qui m'habitent, afin que j'ai aussi ces paroles, comme je vous le disais ce matin, nos pensées sont le prolongement audible. Nos paroles sont le prolongement audible de nos pensées et nos actions sont le prolongement visible de ce que l'on pense. Alors je dis, Seigneur, donne-moi d'avoir tes pensées. Parce que dans ma nature, j'ai réalisé que je n'avais pas les pensées du Seigneur. Et que ce qui pouvait m'être agréable n'était pas nécessairement agréable à Dieu. Ce qui pouvait satisfaire ma chair ne satisfaisait point nécessairement la volonté de Dieu. Et voyez-vous, c'est en voyant la vie de Jésus, cette vie qui a reçu la pleine approbation de Dieu, que j'ai découvert ce qu'était ma vie. Je l'ai dit quelquefois, hein, pour se connaître, oui. Il faut se voir dans quelle lumière? La lumière de Jésus. Parce que si vous vous regardez en vous comparant aux autres, hein, ben, quand vous vous regardez vous-même, comme je l'ai dit quelquefois, quand je me vois, je me désole, hein, parce que je vois que je dépéris, oui. L'homme extérieur dépérit, il y en a beaucoup qui me l'ont dit, hier soir, quand je suis arrivé, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ben oui, vous voyez, l'homme extérieur en prend un coup. L'homme extérieur dépérit. L'homme intérieur doit être renouvelé de jour en jour. Alors, quand je me vois, je me désole. Mais quand je regarde les autres, je me console. voilà ce que l'on dit quelquefois. Hein. Quand je me vois, je me désole, mais quand je vois les autres, il y en a qui sont pires. Alors, je me console. Mais quand je me vois, dans la lumière du Seigneur, je suis brisé. Et c'est à cela qu'il faut arriver, mes bien-aimés. Parce que sans ce brisement, vous n'avez pas vraiment besoin d'un sauveur. Et moi, je ne veux pas vous dire, maintenant, vous devez recevoir le sauveur. Quand un homme est en train de se noyer, puis qu'on lui jette une corde, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a saisi. Il n'y a pas besoin de lui expliquer 36 choses. Il va mourir. Et le saisit. La bouée. Et c'est ça qui le sauve, son acte, son geste. C'est pas nous qui fabriquons cela. Je ne peux pas sauver une âme. Je ne peux pas, par une pression psychique, vous faire changer d'existence. Je vous ferai peut-être changer de religion, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que si vous changez de religion, vous aurez simplement changé de chemise. Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Avant, vous alliez à la messe, après, vous allez à des cultes. Mais qu'est-ce que ça change? Avant, vous chantiez n'importe quoi, des chansons plus ou moins scabreuses, puis maintenant, ben, on chante les petits chœurs à Jésus. Ouais, c'est mieux déjà, hein? C'est mieux, mais enfin, c'est presque la même mélodie, c'est presque la même ritournelle. Et puis c'est ça, hein. Mais dans la vie de tous les jours, oh mais maintenant, vous distribuez des traités, mais c'est très bien de distribuer des traités, mais qu'est-ce qu'il faut être d'abord? Un traité. Soi-même. Avoir une vie qui soit un traité, parce que les traités, on les déchire, vous le savez très bien. Tandis que votre vie, avant de la déchirer, peut-être qu'elle sera déchirée. Comme la vie d'Étienne a été déchirée. Mais avant qu'elle ne soit déchirée, il y aura un témoignage qui aura été rendu. Et même si votre vie est déchirée, comme la vie d'Étienne, le premier martyr, ça a donné quoi comme conversion? La conversion de Saul de Tarse. D'un ennemi de l'Évangile qui est devenu le propagateur de l'Évangile. Et si nous connaissons l'Évangile en Europe, c'est parce que l'apôtre Paul l'a apporté en Macédoine, dans la ville de Philippe. Alors, mes bien-aimés, je vous pose cette question. Avez-vous appris à connaître Dieu en Jésus? Ça vaut la peine, hein, de s'y arrêter. Avez-vous appris à vous connaître devant le Seigneur? Et Josaphat a dit que ce serait peut-être la plus belle fin de semaine de votre vie. Mais j'avais envie de lui dire, ce sera peut-être l'heure la plus malheureuse que vous allez vivre dans cette fin de semaine. Mais une heure qui ne restera pas malheureuse. Mais il faut passer par là pour avoir une vie heureuse. Pour savoir ce que c'est qu'être sauvé. C'est pas des mots, c'est une vraie délivrance. Et de se savoir pardonner de tous nos péchés. De toutes nos iniquités, de toutes ces sales pensées que j'ai eues dans ma caboche. Est-ce que j'emploie un mot qui est compris au Québec? Ma caboche, hein, ben, vous savez ce que c'est ma tête, hein, ma sale tête. Que je puisse être pardonné de toutes les pensées que j'ai pu avoir et que je peux avoir encore. Parce que la nature, c'est toujours notre même nature. Et si je place devant mes yeux des choses qui ne sont pas saines, qu'est-ce qui m'arrive? Des pensées saines? Ou bien je sors, il y a une réaction, oui. Ou bien alors, je me laisse aller. Et l'on s'endort. C'est pourquoi il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Parce que quand vous voyez un homme dormir au milieu des morts, avec les autres morts, est-ce que vous voyez la différence? Non? Qu'est-ce qui montrera la différence? Que celui qui dort a vraiment la vie. Parce qu'on peut avoir la vie et s'être endormi. Hein. Mais quand on est endormi, on est comme les morts. On est comme les morts. Alors il y a une foule de gens dits chrétiens, hein, ou qui sont peut-être chrétiens, je ne veux pas juger, mais qui sont simplement comme des morts. Mais qu'est-ce qui peut prouver qu'ils ont la vie? Il se réveille quand? Par quoi? Réveille-toi, toi qui dors, quand on parle. C'est la parole qui réveille. Et s'il y a parmi vous des endormis spirituellement, j'ai tout d'espoir que dans cette fin de semaine, la parole du Seigneur aura atteint votre conscience et votre cœur et qu'elle vous aura réveillé. Et que vous ne serez plus comme les morts. Et que ce chapitre 5 des Éphésiens, où vous avez vu qu'autrefois nous étions ténèbres, et maintenant que nous sommes lumière dans le Seigneur, qu'il y aura vraiment ce contraste. Non pas parce que vous vous êtes amélioré, mais parce que le Christ vous recouvre et vous éclaire. Alors maintenant, apprenons brièvement par les Écritures ce que le Christ disait en entrant dans ce monde, afin que vous compreniez bien ce qui était agréable à Dieu. Quand il entre dans le monde, là, c'est même avant la conception virginale, il dit à son Père, « Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande. Alors tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ta loi est au-dedans de mes entrailles. » Jésus, la parole, était en lui. Alors c'est cela qu'il dit en entrant dans le monde. Puis, quand il exerce son ministère, et qu'il est en Samarie, là au bord du puits de Sichar, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples qui lui apportent à manger une fois que la femme samaritaine, vous connaissez le récit, est partie? Les disciples lui disent « Mange, Seigneur !» Puis il dit « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors il dit « Est-ce que quelqu'un lui a donné à manger ?» Il dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Voilà un homme qui entre en disant « Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. » Au sein de son ministère, il dit « Ma nourriture, ce qui me nourrit, ce qui me fait vivre, c'est de faire la volonté de Dieu. » Alors que nous disons toujours que c'est difficile. Lui, il dit « C'est ma nourriture, c'est ce qui me fait vivre, c'est de faire la volonté de Dieu. » Et dans la nuit où il fut livré, quand devant l'affreuse nuit qui l'attend et les tourments indicibles qu'il va connaître, il est en prière. Qu'est-ce qu'il dit à son Père? S'il était possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non ma volonté, mais la tienne. C'est la soumission totale à la volonté de son Père. Non ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Après vous avoir rappelé tout ça, je vous demande, est-ce que vous avez ce soir, 19 février, une conviction au sujet de Jésus? J'ai appliqué la première règle tout à l'heure en relisant les versets qui précédaient cette parole, le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, remettre un texte dans son contexte. Puis, la deuxième règle que je vous ai mentionnée hier soir et que j'ai rappelée ce matin, il faut bien comprendre le sens des mots. Alors, je vous ai dit que dans le thème de cette fin de semaine, il y avait un verbe, examiner. Qu'est-ce que c'est examiner? Regarder superficiellement. Qu'est-ce que c'est examiner? C'est regarder, considérer avec attention. Il vaut la peine de considérer avec attention. Une autre version dit éprouver toute chose. Hein. Les mettre vraiment à l'épreuve. Vérifier si cela est juste. Alors, voilà, on passe sur le verbe. Hein. Vous savez ce que c'est maintenant, l'examen. Et puis, on a dit quelque chose d'agréable. Qu'est-ce que c'est? Cet adjectif. Agréable. Eh bien, quelque chose qui est agréable, c'est quelque chose qui est reçu, agréé, qui est accepté. D'abord, c'est cela. Quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui est reçu, qui est accepté, qui est agréé. Mais quelque chose qui est reçu, et surtout par Dieu, c'est quelque chose, et même pour nous, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui est beau. Est-ce que c'est vrai? C'est quelque chose de beau, quelque chose d'agréable. C'est quelque chose qui est juste. C'est quelque chose qui est bon. C'est quelque chose qui est vrai. C'est quelque chose de charmant. C'est quelque chose de plaisant. C'est quelque chose de doux. C'est quelque chose d'harmonieux. Et habituellement, on apprend ce qui est agréable par quoi? Qu'est-ce que Dieu nous a donné, au fond, pour savoir ce qui est agréable? Ça, c'est agréable quand je me frotte? Mais si je me frotte à du velours, c'est doux, n'est-ce pas? Alors, par le sens du toucher, je peux connaître des choses qui sont agréables au toucher. On peut connaître des choses qui sont agréables à la vue, un beau paysage, par exemple, un joli visage, c'est agréable, elle était agréable, elle était belle de taille et de visage, de figure, dit l'Écriture. Donc, nos yeux nous permettent de voir des choses qui peuvent être agréables à la vue, de la musique peut être agréable, une voix est agréable, mais il y a des voix qui ne sont pas toujours agréable à entendre, des sons qui ne sont pas toujours agréables. Et qu'est-ce qu'on a encore comme autre sens? À part l'ouïe, à part la vue, à part le toucher, on a l'odorat. Alors il y a des parfums qui sont agréables, des odeurs qui sont agréables, puis il y en a qui sont des odeurs de pourriture. Hein. Alors c'est désagréable, vous n'aimez pas respirer ces odeurs-là. Donc on a l'odorat. Et puis, on a le goûter. Alors, il y a des choses qui sont agréables au palais. Hein. On aime ces choses-là. Mais la grande affaire, pour nous, ce n'est pas de savoir si c'est simplement agréable à notre chair. Parce que le royaume de Dieu, c'est pas manger et boire, dit l'Écriture. Hein. Le royaume de Dieu, c'est pas manger et boire. Il y a des choses qui me sont peut-être excellente, que j'aimerais manger ou que j'aimerais boire, mais je puis m'en passer si je sais que même ces choses qui me sont agréables peuvent me nuire. Ou peuvent, si moi j'ai cette liberté, si je sais que ma liberté peut pousser quelqu'un qui est plus faible que moi à l'excès, qu'est-ce que je dois faire ? Peut aussi m'en priver pour ne pas être un mauvais exemple. J'aurai la liberté de faire cela. Mais puisque cela peut scandaliser un plus faible, l'Écriture me montre que ce qui est agréable à Dieu, c'est de servir Dieu de cette manière-là. On n'a pas des recettes, des principes, ça c'est agréable, ça c'est pas. Mais on a un sens spirituel. Alors, qui est-ce qui nous donne ce sens spirituel? C'est le Mais, comprenez-le bien, quelque chose d'agréable, ce n'est pas seulement les sens qui vous font savoir ce qui est agréable. Qu'est-ce qu'il faut pour lui être agréable? Il faut un sixième sens dont je vous ai parlé, et c'est la foi. Sans la foi, lisons-nous dans Hébreux 6, et nous aurons l'occasion d'y revenir ce soir, il est impossible de lui plaire, de lui être agréable. C'est une impossibilité. Alors, je sais très bien que si vous n'êtes pas amené à la foi, et qu'est-ce que c'est la foi? C'est pas croire qu'il y a un Dieu, parce que une foule de gens y croient. Hein. Mais c'est quoi? C'est croire ce que Dieu dit. La foi, c'est une obéissance, c'est prendre Dieu au mot, c'est le prendre au sérieux. Tu l'as dit, Seigneur, je le crois, je le crois. Même si vous ne comprenez pas, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas besoin de démontrer. Et cette foi, eh bien, elle est au Seigneur Jésus. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous savez tous que nous allons mourir. Hein? Enfin, nous n'attendons pas la mort, nous attendons le Seigneur. Hein? Mais s'il n'est pas venu, nous devrons mourir. Et si nous mourons, c'est ça qui est affreux, c'est mourir dans nos péchés, mourir avec ces mêmes désirs qui n'ont jamais été pleinement satisfaits, mourir avec les mêmes passions, et de l'autre côté, on ne peut plus les satisfaire. Au moins sur la terre, il y avait encore le péché, hein. Le sel de la vie, c'était encore le péché, mais une fois qu'on meurt, est-ce qu'on pêche? Non, mais on a les mêmes désirs et c'est ça qui brûle. C'est pas l'incendie éternel, le feu. Vous voyez, vous brûlez, mais vous ne pouvez plus satisfaire ces désirs. C'est la mort. Vous êtes fixé dans vos péchés et c'est ça le drame. C'est ça l'éternel châtiment. Être sans libération, avoir le même désir, et puis savoir que c'était vrai ce que Dieu disait, et qu'on aurait pu avoir l'union, mais maintenant c'est trop tard. Ce qui vous aurait libéré, c'est l'union avec le Seigneur, c'est en union avec lui, c'est dans le mariage, si j'ose dire ainsi, spirituel, avec le Seigneur. Mais maintenant, le mariage, on n'a plus. On vit sans être marié. Et chez les croyants aussi, chez les gens dits chrétiens, on vit soi-disant avec le Seigneur, mais sans qu'il y ait réellement union. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est sur ces choses que je voudrais arrêter votre attention et que le Seigneur a arrêté mon attention. On est croyant, on est religieux, mais au fond, il n'y a pas l'union. Ouais, alors on peut se quitter, puis aller avec quelqu'un d'autre. Et ça se renouvelle sans cesse, ces infidélités, ces adultères spirituels. Et le témoignage n'est pas rendu. Mais on continue à chanter, on continue à évangéliser, à faire de grands efforts, mais la vie ne change pas, les gens nous regardent, les gens nous voient. Et ils ne peuvent pas croire à cet évangile qui n'a pas satisfait nos cœurs. Alors, Jésus disait, parce que c'est lui que vous devez savoir. Qui es-tu? Qui est Jésus? Qui est ce Seigneur? C'est le dernier mot que nous avons examiné selon la deuxième règle. Examinez ce qui est agréable à qui?
Au Seigneur.
Au Seigneur. Et nous avons vu comment le Seigneur a été agréable à son Père. Il faisait sa volonté. Alors nous allons aussi nous absorber dans qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Est-ce que les commandements sont vraiment pénibles? Oui. Si je garde ma nature, c'est contraire. Mais si je reçois une nouvelle nature, si je deviens enfin l'enfant de Dieu, au lieu d'être seulement une créature de Dieu, si je deviens l'enfant de Dieu par ce qui est appelé la nouvelle naissance, une naissance qui ne vient pas de la volonté de l'homme, ni du prédicateur, ni de la pression de la chair et du sang, mais qui vient de l'Esprit de Dieu. On peut se convertir dans sa voiture, on peut se convertir. C'est pas nécessaire d'être dans une fin de semaine biblique. Quand l'Esprit de Dieu opère, il vous rappelle une parole et vous met à terre. Et le Seigneur entend. Mais je vous le dis, ce soir, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et Jésus disait, quand je serai élevé de la terre, vous saurez qui je suis. Alors, le Seigneur m'a dit, c'est la dernière parole que j'ai entendue en venant, conduis-les à la croix. Parce que c'est là que vous pouvez comprendre. D'une part, l'amour de Dieu, et d'autre part, la méchanceté des hommes. Regardez ce qu'était Jésus, ce qu'il a fait, pensez à lui. Et maintenant, comprenez sa sueur sanglante. Gethsémané. Il allait prendre sur lui tous les péchés du monde, en pensée, en parole, en acte. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui? Mais c'est le péché partout. Non, on n'appelle plus ça péché. On dit ne nous parlez pas de péché au Québec, on nous a assez culpabilisés. Il n'y a pas de péché. C'est une invention des prêtres. C'est une invention des pasteurs. Regardez à la croix. Pourquoi est-il frappé? Il a été fait, dit l'Écriture, péché pour nous. Vous voulez savoir comment Dieu traite le péché? Eh bien, quand le péché, quand ce que Dieu appelle abomination, quand ce que Dieu appelle péché, aujourd'hui, l'homosexualité, tout ce que vous voulez, le mariage sans union réelle, tout cela, enfin, vivre les relations sexuelles, tout cela, comme l'on veut, comme l'on pense, tout ce qui est appelé immoralité dans l'écriture d'autrefois est toujours l'immoralité aux yeux de Dieu. Et il est dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le monde. Je ne dis pas qu'on est dans un temps pire qu'au jour de Noé. Mais qu'est-ce qu'il y a eu au jour de Noé? Le déluge. Je ne dis pas qu'on est dans un temps pire qu'au temps de Sodome et de Gomorre. Mais qu'est-ce qu'il y a eu au jour de Sodome et de Gomorre? Le feu du ciel et le jugement de Dieu, il vient sur le monde. Et pour que vous sachiez quelle est la mesure du jugement de Dieu, regardez le Christ en croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il y a une réponse? Non. Il est mort. Condamné par mes péchés en pensée, condamné par mes péchés en parole, condamné par mes péchés en acte, quel qu'il soit, tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu, à sa pureté, tout ce qui est mélange, il a porté tout cela. Et il a souffert dans toutes les parties de son être pour expier mes péchés. Pour qu'un jour, les ayant expiés, ils puissent vous dire, tes péchés sont pardonnés. C'est pas un coup d'éponge. Hein? Il y a eu expiation. Il a vraiment payé la dette de mes péchés. Et je vois à la croix comment Dieu traite le péché quand il est même sur son fils. Est-ce qu'il avait des péchés, lui? Alors pourquoi est-il mort? Il est mort pour nos péchés. Oh, que le Saint-Esprit vous dépeigne vraiment Jésus-Christ crucifié au milieu de vous et que vous compreniez enfin ce qu'est le salut. Il est mort pour mes péchés. Quand ma conscience est torturée, quand je me vois perdu, c'est alors que je peux être. Mais si c'est simplement que vous êtes ému parce que le prédicateur raconte et puis que vous voulez faire plaisir après, pourquoi pas vous signez une carte ou vous faites quelque chose, puis c'est fait? Non, mes amis, il faut que vous soyez passés par cette conviction de péché. Peut-être que vous aurez accepté Jésus sans avoir la conviction de péché profonde, mais vous l'aurez quand alors? Vous l'aurez plus tard. Hein? Vous l'aurez ensuite. Une vraie conversion nous amène à la repentance. On ne peut pas fabriquer une repentance. Moi, je ne peux pas vous dire repentez-vous de ceci. D'abord, je ne connais pas votre vie. Je connais seulement la mienne. Hein? Puis c'est le Seigneur qui me connaît. Et je sais que je suis un vrai pécheur qui avait besoin d'un vrai sauveur. Comme je dis quelquefois, on n'a pas un sauveur en peinture. Hein? Parce qu'on n'est pas des pécheurs en peinture. On est de vrais pécheurs. Et nos péchés ont un nom. Eh bien, il a porté vos péchés en son corps sur le poids. Et c'est là que j'apprends la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. Dieu ne passe pas sur le péché. Voyez-le. Jésus est mort, a subi la condamnation. Et si Dieu peut nous pardonner, c'est en vertu de la mort. Dieu n'est pas le vieillard qui dit bon, que c'est, je m'amuse de vos fautes. C'est ça que vous entendez à la radio, à la télévision, c'est ça que vous voyez. Hein? Le bon Dieu, sa miséricorde est infinie, tout s'arrange finalement avec lui. Il passe l'éponge. Ce n'est pas vrai. Nous ne connaissons pas un Dieu qui passe l'éponge. Nous connaissons le Dieu qui ne répond pas sur la croix. Parce que son Fils expie nos péchés et baisse la terre. Mais en ayant dit, tout est accompli. Votre salut, il est par grâce. Vous êtes sauvés par grâce. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Mais ce don, il faut l'accepter. Est-ce que vous seriez de ceux qui l'accepteront? Aujourd'hui, Dieu notre Père, nous te demandons que nous ayons cette révélation de la croix. Et que tu nous montres toi-même que ce n'est pas seulement pour nos péchés que tu es mort, mais pour nous donner la possibilité de mourir avec toi. Pour que nous soyons ensevelis dans ta mort. Puis que nous connaissions une vie nouvelle d'entre les morts qui nous permettra de discerner quelle est la volonté de Dieu, et qui nous permettra de te laisser faire en nous ce qui t'est agréable. Car c'est toi, ô Jésus, qui veux vivre la vie de Dieu en nous. Nous ne pouvons pas la vivre, mais nous pouvons te livrer nos corps en sacrifice vivant, saint, qui te seront agréables, mais seulement si nous t'avons reçu. Ô Seigneur Jésus, permets que nous connaissions le Seigneur. Et que nos cœurs, ô Père, aient été attirés irrésistiblement par ton amour, car tu as consenti à sacrifier ton fils pour avoir d'autres fils semblables aux tiens. Et tu veux qu'il en soit ainsi dans nos propres vies. Père, attire-nous au Christ. Et toi, Seigneur Jésus, fais-nous connaître que nul ne vient au Père que par toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Que nous puissions marcher dans ce chemin, confesser cette vérité et vivre de cette vie à ta seule gloire, c'est maintenant et à jamais. Amen.